Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وذق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qu'il engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 22 septembre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les relations Europe-Iran ne devraient pas être influencées par l'attitude anti-iranienne des États-Unis, insiste le chef de la diplomatie iranienne, Amir Abdollahian. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, la politique d'Iran vise à préserver la stabilité et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, déclaration du président Raïsi à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les pourparlers de Vienne reprendront dans les semaines à venir, a déclaré Téhéran. Et puis l'Iran félicite la formation du gouvernement au Liban. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Ebrahim Raïsi s'est exprimé en ligne mardi lors de son intervention à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président iranien, qui ne s'est pas rendu à New York pour la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, a prononcé son discours par visioconférence. L'Iran est la terre de la culture et de la civilisation, le pays du savoir et de la spiritualité, le pays de la persévérance et de l'indépendance. Le peuple iranien est monothéiste et patriote. Ils ont leur identité unique et aiment explorer le monde. Pendant des centaines d'années, notre nation a protégé son droit à l'autodétermination et à la liberté contre les hégémonistes et a fait de son pays le plus progressiste du système politique basé sur les élections dans l'ouest de l'Asie. La révolution islamique a en effet été un grand pas pour la réalisation des idéaux nationaux et islamiques des Iraniens, notamment la liberté, l'indépendance et la démocratie religieuse, a-t-il dit. Ibrahim Raïsi a également insisté à cette occasion que la politique de l'Iran vise à préserver la stabilité et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, dénonçant les sanctions américaines contre la République islamique pendant la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que cette action équivaut à des crimes contre l'humanité. Ebrahim Raïsi a fait ces remarques dans son tout premier discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Raïsi a souligné que la soi-disant campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran avait échoué. Le président iranien a ajouté que le désir des États-Unis d'hégémonie, d'effusion de sang et d'instabilité avait lamentablement échoué. Ailleurs dans ses remarques, le président Raïsi a maintenu que Téhéran a respecté ses engagements nucléaires tandis que les États-Unis ont violé l'accord de 2015. Il a déclaré que l'Iran voulait que toutes les sanctions soient levées d'un coup, notant que Téhéran n'avait aucune confiance dans les promesses de Washington. Le président iranien a noté que le seul type de dialogue que son pays considère comme utile est celui qui conduit à la suppression des restrictions oppressives. Les pourparlers de Vienne reprendront dans les semaines à venir, a déclaré Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré mardi que les pourparlers de Vienne entre l'Iran et les autres participants au PGAC, l'accord nucléaire de 2015, reprendraient dans les semaines à venir. S'exprimant mardi lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Les pourparlers de Vienne reprendront bientôt dans les prochaines semaines et cela a été annoncé au 4+1 ». Il a ajouté que la nouvelle équipe diplomatique d'un nouveau gouvernement en Iran est en train de finaliser ses consultations sur les modalités de donner suite aux pourparlers. Pendant ce temps, le porte-parole a déclaré qu'une rencontre entre l'Iran et les 4+1 signataires de l'accord n'était pas à l'ordre du jour de la délégation iranienne à New York, notant que tous les hauts diplomates pourraient ne pas être présents à New York. L'Iran a réitéré que les pourparlers à Vienne entre la République islamique d'Iran et les autres parties à l'accord nucléaire de 2015 visent simplement à ramener les États-Unis au plein respect de l'accord. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a fait ce commentaire alors qu'il rencontrait son homologue allemand Heiko Maas à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Amir Abdollahian a déclaré que les États-Unis devraient savoir que tous les compromis ont déjà été faits au cours des négociations qui ont conduit au pacte multilatéral. L'autre haut diplomate iranien a ajouté que les pourparlers de Vienne ne visent pas à conclure un nouvel accord nucléaire, mais ils cherchent à assurer un retour garanti des États-Unis à l'accord après leur retrait unilatéral en 2018. Amir Abdollahian, qui se trouve à New York pour la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, a également rencontré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell. Il a déclaré à Borrell que l'administration du président américain menée par Joe Biden suivait les mêmes politiques contre l'Iran adoptées par son prédécesseur en maintenant en place les sanctions. Le chef de la diplomatie iranienne a qualifié la politique américaine de non constructive. La diplomatie iranienne a félicité la formation du gouvernement au Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a félicité son homologue libanais pour la formation d'un nouveau gouvernement au Liban. M. Abdollahian a qualifié la formation du gouvernement libanais d'étape importante pour surmonter les problèmes et répondre aux aspirations de la nation résistante du Liban et a ajouté la République islamique d'Iran croit que la paix et la stabilité sont acquises au Liban par la démocratie, l'harmonie et la cohésion interne, loin des ingérences extérieures. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que le peuple libanais, qui, soutenant le gouvernement de la résistance et l'armée libanaise, a obtenu de brillants résultats dans la lutte contre le terrorisme, l'occupation et les mouvements takfiri, et sera en mesure de résoudre les problèmes de son pays et progressera donc vers la prospérité et le progrès. À la fin de son message, Amir Abdollahian a conclu « La République islamique d'Iran sera toujours aux côtés du peuple et du gouvernement libanais et, comme par le passé, se déclare prête à un développement global des relations. » L'actualité régionale avec l'Afghanistan. 3 personnes tuées dans une attaque armée à Jalalabad. 3 personnes sont tuées dans une attaque contre un poste de contrôle à Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan. Des sources locales disent qu'un groupe d'hommes armés a tué 2 gardes talibans et un civil lors de l'attaque. Les talibans ont confirmé l'attaque, mais ont déclaré que toutes les victimes étaient des civils. Samedi, une série d'explosions a frappé Jalalabad. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque et a déclaré que 35 membres des talibans avaient été tués ou blessés dans les incidents. Des pèlerins musulmans affluent vers la ville sainte irakienne de Karbala à l'approche du jour d'Arbaïn. Les pèlerins se joignent au rassemblement annuel qui marque le 40e jour après l'anniversaire du martyr de l'imam Hossein, béni soit-il, 3e imam, et le petit-fils du noble prophète, le très vénéré Mohammed. Cette année, Arbaïn tombe le 28 septembre. L'événement a attiré des millions de personnes ces dernières années, malgré la pandémie de Covid. Le gouvernement irakien a limité le nombre de visiteurs étrangers depuis l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. L'autre vénéré Imam Hossein et des dizaines de ses compagnons ont été martyrisés dans une bataille inégale avec les troupes du souverain tyran de leur temps il y a plus de 13 siècles. La bataille, connue sous le nom de la tragédie d'Ashura, est l'une des occasions religieuses les plus importantes marquées par les musulmans. Un mot de l'économie dans l'actualité iranienne, l'échange commercial d'Iran avec l'Union économique eurasienne s'élève à 2 milliards de dollars. L'échange commercial de la République islamique d'Iran avec les pays membres de l'Union économique eurasienne au cours des 5 premiers mois de cette année a dépassé le 1,957 milliard de dollars. Selon un rapport des relations publiques de la douane de la République islamique d'Iran, citant Hossein Kaki, directeur général du Bureau de coopération douanière internationale au cours des 5 premiers mois de cette année, les exportations iraniennes vers les pays membres de l'Union économique eurasienne s'élevaient à 420 823 000 dollars, ce qui montre un essor de 37% par rapport à la même période l'année dernière. Sachez également que les exportations des industries minières dépassent les 5 milliards de dollars en Iran. Selon une étude sur le commerce extérieur, la valeur des exportations des industries minières au cours des 5 premiers mois de l'année persane en cours a atteint 5 088 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 126% par rapport à la même période l'année dernière. Autre thème pour conclure le journal, les législateurs démocrates américains ont retiré 1 milliard de dollars d'aide militaire à Israël dans le cadre d'un projet de loi pour financer le gouvernement américain. Le financement du système de missiles Iron Dome d'Israël figurait dans une disposition initialement inclue dans un projet de loi visant à maintenir le financement du gouvernement fédéral. Mais la disposition a été supprimée d'une version ultérieure après que des législateurs progressistes ont déclaré qu'ils s'opposeraient à la mesure si elle était incluse. Les législateurs se sont opposés à cette disposition, citant les victimes palestiniennes lors de la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza en mai. La Maison-Blanche débat d'un projet de loi pour financer le gouvernement fédéral jusqu'au 3 décembre et augmenter la limite d'emprunt du pays pour éviter une éventuelle fermeture du gouvernement. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Les relations Europe-Iran ne devraient pas être influencées par l'attitude anti-iranienne des États-Unis, insiste Amir Abdollahian. Les relations de l'Europe avec l'Iran ne devraient pas être influencées par le comportement et d'attitude non constructifs des États-Unis envers l'Iran, a déclaré Hossein Amir Abdollahian lors de sa rencontre avec le ministre autrichien des Affaires étrangères. Suite aux rencontres de mardi soir entre le ministre iranien des Affaires étrangères et ses homologues européens, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré Alexander Schellenberg, ministre autrichien des Affaires étrangères en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Lors de la rencontre avec son homologue autrichien, le ministre iranien des Affaires étrangères a remercié l'Autriche pour le don du vaccin à l'Iran et a passé en revue le dernier état des relations bilatérales. Le nouveau gouvernement iranien est prêt à améliorer les relations avec l'Autriche, a ajouté le très haut diplomate. Soulignant la volonté de Téhéran de définir une relation équilibrée avec l'Europe, Amir Abdollahian a déclaré « Les relations de l'Europe avec l'Iran ne devraient pas être en fonction du type de comportement et d'attitude non constructif des États-Unis envers l'Iran. » en discutant de la dernière situation en Afghanistan avec son homologue autrichien, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la nécessité de former un gouvernement inclusif conforme à la volonté du peuple afghan. L'Iran accueille plusieurs millions de frères et sœurs afghans depuis 4 décennies, mais la poursuite de cette situation nécessite l'aide d'institutions internationales responsables. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités à cet égard, a annoncé Amir Abdollahian. Pour sa part, le ministre autrichien des Affaires étrangères a déclaré lors de la réunion « Vienne a toujours cherché à élargir ses relations avec l'Iran et ne fixe aucun plafond pour l'amélioration des relations ». Annonçant que le vice-ministre autrichien des Affaires étrangères se rendra prochainement en Iran, le ministre des Affaires étrangères d'Autriche a appelé à des consultations plus régulières entre les deux pays. L'Autriche est intéressée à accueillir les pourparlers nucléaires à Vienne, comme par le passé. À cet égard, une bonne et étroite coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique empêche les abus de certains acteurs de perturber le processus de négociation, a conclu le ministre autrichien des Affaires étrangères.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors les États-Unis, encore une fois, qui ont une très longue histoire de comportements de mauvaise foi à l'égard du monde entier. Cette fois, ils ont trahi l'Europe et particulièrement la France. En effet, les sous-marins nucléaires destinés à l'Australie, le président des États-Unis également, le premier ministre britannique et celui de l'Australie sont entrés dans un nouvel accord, ce qui a naturellement trahi toute l'Europe entière et particulièrement la France. Justement, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian de la France, était très en colère, a déclaré, je cite, que c'est un coup dans le dos et que ça ne se faisait pas entre alliés. Nous allons développer ce sujet à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
La trahison de la France par Washington au sujet des sous-marins nucléaires destinés à l'Australie signale un énorme changement géopolitique dans la stratégie américaine. Dans sa confrontation croissante avec la Chine, un Washington impitoyable a démontré que ce qui compte désormais pour lui, ce n'est pas l'Europe, ni même le Moyen-Orient, mais la région Indo-Pacifique. C'est là que la nouvelle guerre froide va être menée. Mercredi soir, le président américain Joe Biden, le premier ministre australien Scott Morrison et le premier ministre britannique Boris Johnson ont tenu un sommet trilatéral virtuel au cours duquel ils ont affirmé un nouvel accord intitulé AUKUS, un engagement novateur à intensifier la coopération militaire entre les trois alliés anglo-saxons, les rapprochant encore plus en mettant en commun les technologies critiques et la recherche. Cependant, le pacte sur les sous-marins impliquait que l'Australie rompe brusquement un accord de 2016 de 43 milliards de dollars avec la France pour construire 12 de ses sous-marins. Une décision qui a provoqué l'indignation de hauts responsables à Paris, qui ont effectivement accusé les États-Unis de trahison. Il y a à peine 2 semaines, les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères avaient reconfirmé leur engagement envers l'accord avec la France, malgré les défis signalés. Toute cette saga perce une brèche dans la tentative de Biden d'essayer de reconstruire les liens transatlantiques avec l'Europe, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ayant déclaré « Je suis aujourd'hui très en colère. Ça ne se fait pas entre alliés. Cette décision unilatérale, brutale et imprévisible est très similaire à ce que faisait M. Trump. C'est vraiment un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. et cette confiance est trahie. L'Europe semble avoir un sentiment d'illusion sur ce que sont les États-Unis et n'a pas réussi à calculer quelles étaient les intentions réelles de Biden, principalement en raison d'une distraction causée par le dernier président, ce qui a rendu les capitales européennes confiantes quant au changement d'attitude des États-Unis envers l'Europe. Mais celles-ci ont également été incapables, à plusieurs reprises, de reconnaître que Washington a une longue histoire de comportements de mauvaise foi envers le vieux continent. L'Amérique n'est pas le sauveur de l'Europe, et bien que l'Union européenne elle-même ait également été évoquée pour se joindre au mantra Indo-Pacifique, tout était couru d'avance pour elle, car les États-Unis ne les considèrent pas comme importants et les ont relégués au mieux sur le banc des remplaçants.
Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue. Et bonjour à vos téléspectateurs.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Débat. Un grand bonjour également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre, expert de questions internationales qui vient nous joindre depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs, bonjour à Luc Michel et bien sûr à toute l'équipe.
Nous espérons que ce sera un débat prometteur. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. M. Luc Michel, les États-Unis ont montré encore une fois la mauvaise foi de ces derniers vis-à-vis de l'Europe et particulièrement la France. Quelle est l'intention des États-Unis en trahissant la France justement dans les accords signés tout récemment?
Écoutez, les États-Unis pourtant avaient donné un avertissement que les Français n'ont pas entendu. Il y a quelques semaines, il y avait eu la proclamation de ce qu'on appelle la doctrine Biden, c'est-à-dire des orientations de politique internationale. Joe Biden avait précisé que maintenant la Chine n'était plus seulement l'adversaire économique principal, mais qu'il était l'adversaire géopolitique et militaire principal. C'était donc un changement d'attitude qui amplifiait l'hostilité de Donald Trump. Les Européens auraient dû comprendre que désormais, ce n'était plus le continent européen et l'opposition à la Russie, mais le continent asiatique avec l'opposition à la Chine, c'est vrai. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est d'une fois de plus de voir que tout à fait Biden marche dans les pas de Trump et que bien loin d'une rupture avec Trump, c'est la continuation. On se souvient que le Brexit était une opération géopolitique des États-Unis pour fracturer l'Union européenne et relancer ce qu'on appelle l'impérialisme anglo-saxon avec donc ses colonies. C'est cela que Biden, avec l'encousse, vient de repréciser. Dorénavant, ce qui est prioritaire pour les États-Unis, c'est le lien avec ses anciennes colonies britanniques, ce qu'on appelle donc l'impérialisme anglo-saxon, et que Boris Johnson aujourd'hui appelle le Global Retail. C'est un mauvais coup, évidemment, pour l'Europe, qui continue à être l'adversaire économique qu'il faut fracturer et peu seulement l'intérêt, l'implier géopolitique. C'est la contradiction interne de l'Alliance Atlantique. Il faut dire un dernier mot, c'est amusant de voir Le Drian son indignation, puisque c'était l'homme qui représentait précisément les réseaux pro-américains en France. C'est l'homme qui avait présenté à Obama, François Hollande et Macron et qui s'avait fait accepter comme président par rapport à la droite.
Oui. Et Philippe Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec Luc Michel quand il parle d'une surprise de voir l'indignation de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, car il a toujours protégé les intérêts des Américains?
Oui, alors il faut bien savoir que dans le cadre de ce dossier, je pense qu'il représente bien sûr plusieurs volets, mais comment, je pense que d'une part, on a des sous-marins qui sont certainement un petit peu chers. Et l'Australie, si l'Australie aujourd'hui dénonce ce contrat, c'est sûrement également de faire pression sur les Américains de façon à obtenir de meilleures conditions de vente. D'autre part, il a le point de vue des technologies. Hein, il faut bien savoir que les sous-marins sont d'une très haute technologie. Est-ce que finalement les Américains n'ont pas également fait une très grosse pression sur l'Australie puisqu'il faut quand même savoir que l'Australie, les Britanniques, les États-Unis, culturellement, sont très proches, ils parlent la même langue, ils ont un grand nombre d'idées qui se rapprochent. Donc, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus près des États-Unis que de la France. Maintenant, il est clair que les États-Unis ont certainement fait pression sur l'Australie afin qu'il puisse y avoir une dénonciation de ce contrat. Moi, je pense qu'en fait, c'est un panel de points négatifs et qui aujourd'hui a été remis en question par l'Australie sous la pression américaine afin qu'il y ait une annulation de ce contrat. Alors, je rappelle qu'historiquement, le général de Gaulle l'avait dit, redit et re-redit, il ne faut pas avoir une grande confiance envers les États-Unis, et ce n'est pas la première fois que les États-Unis jouent de très mauvais tours à leurs alliés européens. Alors aujourd'hui, c'est la France, ça avait été le cas il y a plus de 40 ans avec le Concorde. Donc, les précédents sont nombreux et ne sont pas d'ailleurs spécifiques à la France. Hein. Et d'autre part, il y a bien sûr ce pivot en Asie-Pacifique avec la Chine. Et c'est vrai que la France s'est rapprochée bien sûr de la Chine, ce qui est normal, puisque nous avons un très grand allié comme les États-Unis qui n'est pas un allié fiable. Hein. Souvenez-vous les décisions prises par les Américains de surtaxer un certain nombre de produits suite à différentes réactions de la France. Donc c'est un allié qui n'est pas très sûr aujourd'hui. Quant aux Chinois, je pense que ceci doit les faire beaucoup rigoler. Et je pense que la France et l'Europe, d'une manière générale, est dans une situation très, très difficile aujourd'hui.
Tout à fait. Luc Michel, d'après vous, est-ce que le fait que l'Australie s'est rapprochée donc des États-Unis et de l'Angleterre pour acheter des sous-marins nucléaires, est-ce que c'est une approche de technologie et du prix, justement, de ces sous-marins, ou c'est bien autre chose, où les États-Unis cherchent à, justement, prendre tout le marché donc, de l'armée, surtout de l'armée marine?
Il y a une double dimension, il y a une dimension économique et une dimension géopolitique. Le problème de l'alliance, ce qu'on appelle le bloc américano-atlantiste, c'est qu'il a une contradiction fondamentale pour parler en termes marxistes. C'est que l'allié géopolitique principal, c'est l'OTAN, c'est l'adversaire économique principal, c'est l'Union européenne. Les grands adversaires des firmes européennes, ce ne sont pas les Chinois, les Russes, etc., ce sont des firmes américaines. La grande ennemie, par exemple, d'Airbus, c'est Boeing. La grande ennemie de Total, c'est ExxonMobil. La grande ennemie d'Areva, c'est General Electric. Etc., etc. Le grand problème, évidemment, la guerre économique, elle a été lancée entre les États-Unis et l'Union européenne, non pas sous Donald Trump, mais sous Ronald Reagan au début des années 1980. Elle n'a jamais cessé. Au contraire, elle s'est doublée d'une guerre financière lorsque le dollar est apparu, qui s'est affirmé tout de suite en grand rival du dollar. Depuis, les États-Unis n'ont cessé de porter des mauvais coups. Mais c'est amusant de voir la France. La France, en fait, elle est le parfait domestique des États-Unis dans de nombreux domaines, et en particulier en Afrique et dans la zone Indo-Pacifique. Ça n'a pas empêché les États-Unis d'essayer partout d'évincer les Français de leurs marchés commerciaux. Et on continue à voir la France servir les intérêts géopolitiques de ceux qui veulent les invincer des marchés économiques.
Luc
c'est
Michel.
Une cécité absolue. C'est oublier simplement que l'OTAN, ce n'est pas une alliance égalitaire. L'OTAN, c'est un outil de vassalisation politique qui a été créé principalement
oui.
pour assujettir l'Europe occidentale
Tout à fait.
Aux États-Unis. On peut dire que l'Europe occidentale, c'est le second poumon des États-Unis pour prendre une projection biologique. Le premier poumon, c'est l'industrie nord-américaine. Et ce qui fait que les États-Unis sont une superpuissance, relisez Zygmunt Bresnik qui est son grand héritier, c'est précisément le deuxième poumon qui est la domination de la première économie du monde, qui n'est ni la Chine ni les États-Unis, mais les 27 pays unifiés de l'Union européenne. Le but des Américains, c'est d'assujettir cet outil économique, de le faire contribuer à la puissance américaine et d'empêcher que l'Union européenne ne puisse se développer comme un partenaire géopolitique. Aujourd'hui, mais c'est comme ça depuis le début des années 80, l'Union européenne, c'est un géant économique, mais c'est un nain géopolitique, précisément à cause de l'OTAN.
Luc Michel, tout de même, cette fois, vous dites que bon, la France est comme un domestique pour les États-Unis, mais cette fois, est-ce que la France est prête à renoncer à des contrats de milliards de dollars? Et donc, ça va ruiner la France si, justement, la France renonçait à ces contrats, l'Australie qui se rapproche des États-Unis?
Écoutez, il faut comprendre quelque chose. Je vais être cruel, mais je me trouvais hier sous un plateau de télévision avec deux collègues panélistes français, et nous nous sommes frontalement opposés parce qu'ils soulevaient la nostalgie de la grandeur française qui, je le rappelle, s'est arrêtée un soir du 18 juin 1815 à Waterloo. Ils nous ont parlé de De Gaulle, etc., ce qui était une faute psychologique en Afrique, puisque c'est le fondateur de la France-Afrique. La grandeur française, c'est une nostalgie géopolitique que les Américains agitent de temps en temps. On va prendre un exemple. La France, c'est le caniche soumis des Américains. Lorsque vous arrachez un os de la bouche du caniche, il vous montre les dents, ça dure quelques minutes et puis il se resoumet. Le problème, c'est que la classe politique française depuis Giscard d'Estaing, elle est totalement soumise aux États-Unis. Elle fait l'office d'une politique d'entrisme, notamment via une fondation qu'on appelle la French American Foundation, auquel appartiennent toutes les élites politiques, économiques, financières et médiatiques françaises. Et la classe politique française, elle est au pouvoir parce que précisément elle est soumise aux États-Unis. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc il n'y aura pas de révolte durable, il y aura un mouvement d'humeur, il y aura des rappels d'ambassadeurs, il y aura comme d'habitude avec les Français, bien entendu, des roulements d'épaules, il y aura de la musculation, mais ça ne conduira pas ni à une rupture, ni à une rupture au sein de l'OTAN.
Philippe Huguen, vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, oh ben il est clair que, comme le disait Jules Michel, les mauvais coups des Américains envers les Européens, ce n'est pas une nouveauté. On a déjà eu un grand nombre de précédents. Moi, je crois que les Américains sont prêts à faire crever tout le monde dès l'instant où eux-mêmes s'en sortent bien. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les dés sont jetés. Quand on parle, par contre, de la puissance financière dans le monde, eh bien, il est clair que la France ne représente plus rien, puisque la France est en faillite financière. Mais c'est le cas également des États-Unis, qui n'ont plus les moyens aujourd'hui de financer et d'être les rois du monde comme ils l'ont été pendant une quarantaine d'années. Donc les cartes vont être distribuées dans les années qui viennent, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que nous allons avoir une très, très grosse crise financière dans les 5, 6 ans, 7 ans qui viennent, et ce ne sera pas une petite crisette comme 2008, mais c'est quelque chose qui va mettre le monde occidental à genoux. Donc là, on sera vraiment dans une situation catastrophique. Donc l'Union européenne ou les États-Unis n'auront plus la possibilité d'ingérer à travers le monde, comme on le fait depuis très longtemps. Michel parlait de la France-Afrique qui a été mis en exergue par le général de Gaulle. Il est vrai qu'aujourd'hui, la France ne représente plus rien, les puissances coloniales se sont effondrées et nous n'avons plus du tout les moyens aujourd'hui d'agir. Je pense qu'il faut laisser un certain nombre de pays se développer à leur rythme et en respectant leur culture et leur façon de vivre. Ce n'était pas du tout le cas de la France, de l'Angleterre ou des États-Unis. Je pense que c'est maintenant, dans les 15 ans qui viennent, que nous allons assouplir et voir des bouleversements du monde, à la fois géopolitique, géostratégique, financier, économique. Toutes les cartes vont être distribuées dans les années qui viennent, ce qui est une très bonne chose pour la paix du monde et le développement des pays qui sont développés.
Philippe Hugo, est-ce qu'il serait juste parler d'une guerre froide, non pas envers la Russie ou même le Moyen-Orient, mais de l'Asie-Pacifique?
Ah oui, oh ben de toute façon, je pense qu'il y a quand même en sous-main des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qui existent réellement. Donc il est clair qu'il y a énormément d'ingérence, et ceci même au sein de l'Union européenne, entre les nations européennes. Donc il est clair que de la part des États-Unis et surtout de la part de ce géant financier qui est maintenant la Chine, les États-Unis ont extrêmement peur des réactions chinoises, puisqu'ils n'auront plus aujourd'hui, les États-Unis, la possibilité de pouvoir ingérer comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Donc là, il faut bien tenir compte aujourd'hui de cette zone Asie-Pacifique avec un véritable géant qui est la Chine. Quant aux États-Unis, leur rôle dans les années qui viennent va diminuer et ne fera que diminuer. Moi, je suis convaincu que dans une quinzaine d'années, les États-Unis n'existeront plus comme elles existent aujourd'hui. C'est un pays qui va se diviser en plusieurs États et ce qui sera d'ailleurs une très bonne chose pour la paix dans le monde.
Oui. Luc Michel, jusqu'à présent, on parlait très peu de l'Australie. C'est une politique donc, qui surgit, en fait, d'un coup avec ses sous-marins nucléaires à destination de l'Australie. D'abord, pourquoi l'Australie a besoin des sous-marins donc, nucléaires et pourquoi il fait recours aux États-Unis que plutôt à l'Europe?
Mais comme on vient de l'expliquer, nous sommes entrer dans ce qu'on appelle la guerre froide 3.0. La guerre froide 2.0, c'est celle qui opposait les États-Unis à la Russie depuis la conférence de Munich en 2008, où Poutine a exprimé son hostilité aux États-Unis, mais qui s'est surtout développée après la crise de Crimée en 2014. Avec Joe Biden, on est entré dans une guerre froide 3.0, où l'adversaire principal, c'est toujours la Russie et l'Iran, mais l'adversaire principal, c'est la Chine. Pourquoi l'Australie? Parce que l'Australie est essentielle dans la confrontation du bloc occidental avec la Chine. Tout d'abord, l'Australie, c'est l'état-clé de ce qu'on appelle le Quad, c'est l'OTAN du Pacifique, avec le Japon et les États-Unis précisément. Aujourd'hui, la guerre 3.0, elle voit une opposition des vieux États continentaux, la Chine, la Russie et l'Iran, face à des puissances maritimes. Dans ces puissances maritimes, il y a notamment le Japon et l'Australie. Pour s'opposer à la Chine, bien entendu, dans le Pacifique, l'Australie a besoin de ses sous-marins, et il a besoin de sous-marins qui soient, parce que l'Australie est de facto intégré à l'armée américaine, il a besoin de sous-marins qui sont de technologie américaine. Mais on est dans un cas d'école géopolitique vis-à-vis de l'Europe. Vous savez, il y avait un grand géopoliticien européen, il s'appelait le général autrichien Jordis von Lautzen. C'était un disciple du géopoliticien européen Jean Tirier, que la presse belge appelle le belge préféré de Vladimir Poutine. Il est mort en 1992 et il annonçait la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Le général Jordis van Lausen, il parlait des guerres américaines en Yougoslavie et en Irak à l'époque. Et il disait que la partition des politiciens atlantistes à ces guerres, c'était une trahison des intérêts des peuples européens fondamentaux à long terme. C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Entre 1941 et 1944, il y a eu une classe politique qu'on a appelée les collabos des Allemands. Eh bien, en 1944, ces collabos étaient remplacés par une autre classe de collabos, les collabos des Américains. L'occupation allemande, elle a duré 4 années. Elle s'est terminée par le départ des Allemands en 1944. L'occupation américaine qui a commencé le 6 juin 1944, elle n'est pas encore terminée aujourd'hui. Tout cela aura à long terme, évidemment, des conséquences incalculables pour les peuples européens.
Oui, Philippe Hugon, pour terminer, ce n'était pas une première de voir que la France et l'Union européenne avaient été trahies par les États-Unis. Est-ce qu'on sera témoin dans l'avenir d'autres trahisons?
Bon, bien sûr qu'on sera témoin de grandes trahisons. Et il faut bien savoir que dans les 10 ans qui viennent, les choses vont beaucoup changer à la fois en France mais également dans le monde, dû bien sûr au phénomène du Covid qui a été lâché dans la nature volontairement de façon à affaiblir et faire taire les peuples, mais c'est dû également à une économie moribonde, c'est dû à la surpopulation du monde. Il faut bien savoir que la Terre ne supportera pas le poids de 19 milliards de personnes, sans compter que nous avons ces progrès technologiques qui permettent de limiter le nombre de personnels dans les usines. Donc économiquement, nous irons très très mal dans les années qui viennent et nous allons avoir une conjoncture qui va rassembler tous les points négatifs et qui risque bien de nous plonger dans une crise que nous n'avons jamais connue et des bouleversements que les civilisations présentes aujourd'hui n'ont jamais connus. Et c'est extrêmement grave puisqu'aucun politique aujourd'hui tient à modifier le rapport des forces et le bon sens n'existe plus aujourd'hui, donc plus aucun politicien n'aura le courage de prendre des décisions qui s'imposent. Donc je pense qu'il faudra qu'on aille dans le mur afin de mieux rebondir après. Et ça va se faire au prix des médias qui sont incalculables aujourd'hui.
Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir.
L'Iran révolutionnera l'organisation de coopération de Shanghai. Le 17 septembre 2021, les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, ont approuvé l'Iran en tant que membre permanent de l'Alliance politique, économique et de sécurité. La décision a été annoncée à l'ouverture du 21e sommet de l'OCS à Douchanbé, au Tadjikistan, où le nouveau président iranien Ebrahim Raisi a dirigé une délégation de haut niveau pour son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction. M. Raisi a remercié les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai d'avoir permis à l'Iran de rejoindre le groupe tout en exprimant son espoir de voir l'OCS devenir une force motrice du multilatéralisme mondial. Aujourd'hui, la paix et la sécurité mondiale sont menacées par l'hégémonie et les défis tels que le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme, a déclaré M. Raisi. Maintenir et renforcer la paix dans toute l'Asie n'est pas une question de choix, mais une nécessité. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a pour sa part déclaré que l'adhésion stratégique aura un impact important sur le processus de coopération globale de l'Iran, conformément à sa politique de voisinage et de centrage sur l'Asie. L'Organisation de coopération de Shanghai est la plus grande organisation régionale du monde, couvrant les trois cinquièmes du continent eurasien et près de la moitié de la population humaine. Ses pays membres sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Inde, le Pakistan et maintenant l'Iran. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans un discours par vidéoconférence que la Russie soutient la pleine participation de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, car l'Iran a joué un rôle important dans la région eurasienne et a une longue histoire de coopération positive avec cette organisation. Les experts estiment que l'adhésion de l'Iran à l'OCS améliorera considérablement la position géographique du pays dans la région. Évidemment que l'Organisation de coopération de Shanghai est un espace civilisationnel avec des millions de consommateurs qui pourraient servir les intérêts économiques d'un Iran prompt à ignorer le dollar, à contourner les sanctions US et qui, fort de sa position géostratégique hors pair, y entre dans le cadre d'un accord gagnant-gagnant. Et pourtant, cette demande d'adhésion, ce n'est pas la première fois que l'Iran l'a formulée. Elle a été appuyée à la fois par la Russie et la Chine. Il y a 3 ans, en 2018, le Tadjikistan rejetait la demande d'adhésion iranienne. Une réticence qui a été cette année surmontée
à l'instigation d'un président Poutine qui est même allé jusqu'à qualifier la présence iranienne au sein de l'OCS de facteur de renforcement de l'organisation. Mais que s'est-il passé entre-temps pour que la donne change si radicalement? En effet, l'axe sino-russe n'a raté aucun épisode de ces deux années de constante tension Occident-Iran, marquée à l'époque de Trump par plusieurs pics risquant de déboucher sur la guerre, de la guerre des pétroliers à l'assassinat du général Qassem Soleimani et partant à la frappe du 8 janvier contre Ayn al-Assad en passant par des clashs aériens ayant débouché sur l'interception ou la destruction des drones US dans le ciel iranien, ou plus récemment les attaques aux drones contre les navires israéliens. Chinois et Russes ont tous suivi à la loupe. Or, ce qui aurait surtout à voir séduit Pékin et Moscou aurait été le fait que l'Iran ne se contente pas de menacer, mais surtout de répondre du tac au tac fidèle à l'esprit même de toute règle de dissuasion. Mais il y a plus. L'axe sino-russe ne saurait ne pas se laisser emporter par cette admirable notion de l'axe de la résistance, incarnation parfaite du concept même de guerre en réseau. Cette synchronisation de l'action militaire entre les composantes aussi géographiquement éloignées qu'Asarallah, les Hashd, le Hezbollah, le djihad islamique, le Hamas, ni la Chine ni la Russie n'auraient réussi à le réaliser. Or, c'est bien plus qu'une simple alliance militaire ou économique que cet axe de la résistance. L'Iran jouit d'une puissance rassembleuse dont la Chine et la Russie en tant que deux superpuissances sont privées. Il mobilise ses forces et ses alliés d'égal à égal et c'est cette capacité qui manque à l'Organisation de coopération de Shanghai pour devenir outre un simple espace économique où les décisions se superposent pour s'éclipser ou se neutraliser. Une structure cohérente, capable de s'imposer puisque parlant d'une seule voix. L'Iran est capable de mobiliser ses forces et ses alliés d'égal à égal et cette capacité qui manque à l'ECS pour devenir outre un simple espace économique où les décisions se superposent pour s'éclipser ou se neutraliser. C'est à ce prix que l'ECS deviendra un ensemble propre à faire du contrepoids à l'OTAN. Vouloir la comparer au pacte de Varsovie qui s'est cassé au lendemain de l'éclatement de l'URSS est une erreur. L'extension de la résistance à l'Asie va au-delà d'un simple pacte. D'où ces propos significatifs du chef d'état-major iranien qui a déclaré que la République islamique d'Iran renforcerait ses relations militaires avec l'Organisation de coopération de Shanghai après son adhésion. L'OCS comprend la majeure partie de l'Asie, plus de 40% de la population et de la richesse mondiale. Le pacte comprend les grandes puissances industrielles et militaires avec des membres de l'organisation engagés les uns envers les autres, a-t-il indiqué. L'adhésion permanente de l'Iran à l'accord qui a été obtenu malgré l'opposition des États-Unis et de l'Europe est un développement heureux et important et repoussera les menaces contre la nation iranienne. Le général a d'ailleurs judicieusement évoqué le passage d'une flotte iranienne dans les eaux internationales. Pour la première fois, la marine iranienne a navigué dans les océans et les eaux internationales sans être ravitaillée pendant plus de 4 mois. Elle menait sa mission en Atlantique Nord, au vu et au sud des États-Unis et de l'Europe. Cette flotte était en mesure de surveiller plus d'un millier de kilomètres autour d'elle. Après avoir participé à un défilé naval à Saint-Pétersbourg, la flotte de l'armée iranienne a traversé la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge, où la menace du régime sioniste pèse lourdement. C'est toute une leçon pour l'ECS. Le général de division Yahya Rahim Safavi, l'un des principaux assistants militaires du commandant-chef des forces armées iraniennes, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l'Iran, en tant que plus grande puissance de la région de l'Asie centrale, a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai sur la base d'intérêts, de menaces et d'ennemis communs, tandis que les Américains sont en désaccord avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. L'Iran, en fait, a accru le poids géopolitique, géoéconomique et géostratégique de l'Organisation de Shanghai. La puissance du continent asiatique deviendra la première puissance économique mondiale au cours des prochaines décennies. Et c'est sans aucun doute un fait que la puissance américaine sera en déclin.
Thank you.